Vous écoutez France Culture.
Bonsoir. Toute cette semaine, en direct du studio 111 de la Maison de la Radio, un feuilleton dédié à la Première Guerre mondiale, à travers deux grandes voix de la littérature qui en furent les acteurs et les témoins de part et d'autre de la ligne de front. Ce soir, troisième et dernier volet de la lecture d'extraits de « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix. Livre publié entre 1916 et 1923, à partir de notes prises sur le vif, au jour le jour, au fond des tranchées, entre deux assauts. Demain, pour lui donner la réplique, le témoignage d'un autre écrivain majeur. Observation du camp adverse, cette fois, des extraits des carnets de guerre que Ernst Jünger a tenus entre 1914 et 1918. Ceux-là même qui lui serviront après coup à écrire un des tout premiers témoignages littéraires sur la Grande Guerre, « Orage d'acier », qui sera publié en 1920. Quand la guerre éclate, Maurice Genevoix a 23 ans, Ernst Jünger, 19. Tout de suite et en direct, écoutons Maurice Genevoix, porté par la voix de Yann Colette.
Yann Colette et Marc Perron à l'accordéon diatonique. Ceux de 14 de Maurice Genevoix.
18 février 1915. Lentement, dans la boue gluante et profonde, je refais en sens inverse le chemin déjà parcouru. Je ne ramène personne, puisque je n'ai trouvé personne. Et je n'ai rien appris que je puisse dire aux autres, là-haut. Jeannot, Hirsch et Müller, tous les trois. On doit savoir partout maintenant. Qu'est-ce que je vais apprendre moi-même? Et qu'est-ce que je vais voir au tournant du boyau 6? Ils vont me demander si c'est vrai que nous contre-attaquons tantôt, et à quelle heure, et pourquoi nous encore? Je ne pourrai rien leur répondre. Je ne sais rien. Je n'ai pas envie de savoir. Si, pourtant. Mais avant une minute, j'arriverai au tournant du boyau et je saurai. Je les vois de loin, tous en tas, immobiles. Quelqu'un les a-t-il déplacés ? L'homme qui n'est pas mort a-t-il pu faire un mouvement pendant que je n'étais pas là ? Leur tas ne semble plus le même. Près de l'homme, à genoux, quelque chose m'apparaît qui n'y était pas tout à l'heure. Une autre forme humaine, à genoux elle aussi, le front appuyé contre la paroi. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite, sous le sang qui lui barbouillait la figure. La balle l'avait frappé un peu au-dessus de la tempe droite. La cervelle sortie par le trou faisait une hernie énorme qu'on voyait battre comme une artère, et il râlait, un long filet de salive rouge tremblant à chacun de ses râles sous sa moustache. L'arrière, l'hosto, la convalo. Voilà, mon pauvre Trouba. Et l'autre qui n'avait pas bougé, près de ce troisième mort tombé presque sur lui, il gardait le même regard bleu, effrayant d'être si calme. Seulement, par intervalle, il avait un retrait du cou, une sorte de torsion légère, monotone et vaincue. Je lui ai dit que les brancardiers allaient venir. Pour prendre mon élan, j'ai reculé de quelques pas et j'ai sauté. C'est d'abord à moi-même que j'ai songé. Après. Longtemps, j'ai continué d'entendre le froissement vif de ses balles dans la glaise. Elle m'avait attendu. Elles ont volé, nombreuses, dardées comme des surins d'Apache. Elles m'ont absurdement raté. Jamais, jamais je ne repasserai par là. Les 75 du Mont Girmont, à la volée, viennent de tirer deux salves en plein sur le piton. Qu'est-ce qui les prend maintenant? Il est au moins 4 heures trop tard. Dans les mêmes trous d'obus, dans les mêmes creux brûlés du sol, nos hommes continuent d'attendre. Je retrouve avec eux le commandant Sénéchal, Rive et Secousse, Porchon, Rebière, Tellier, Moline, tous. Ils ne me demandent rien. Ils attendent. Je me suis assis près d'eux. De temps en temps, ils parlent, à voix lente et lasse. Des bribes de phrases qui m'apprennent tout, sans que j'aie à les interroger. Et voici ce que j'apprends. Lorsqu'il a su que nous avions lâché la crête, le colonel Tillien, furieux, a téléphoné à notre colonel. Tout était raté par notre faute. Puisqu'il en était ainsi, nous allions réparer le jour même. Il y aurait bombardement préparatoire, comme hier. On ne garantissait pas qu'on pourrait faire aussi bien. Et nous partirions à l'assaut, avec les mêmes objectifs, mais avec les résolutions fermes cette fois-ci, de nous y tenir coûte que coûte, après les avoir atteints. Une communication ultérieure ferait connaître l'heure exacte de l'assaut. Les hommes n'avaient rien dit, paraît-il, lorsqu'on leur avait transmis l'ordre. Ils avaient accepté sans rien dire. Porchon me l'affirme à voix basse. Et je n'ai besoin pour le croire que de les regarder dans les creux où ils se sont assis, où ils attendent, résignés, en mâchant des écheveaux de singes avec de vieilles croûtes de pain. Je n'aurais pas cru tout à l'heure à cette résignation hautaine. À présent que je les regarde, je ne peux comprendre pourquoi. Je les vois amassés dans les creux de la terre, serrés les uns contre les autres, ne faisant plus qu'un seul grand corps déjà blessé, déjà saignant de mutilations aveuglantes, de grondins, de tronçons, de mémasses, de troubas, de tous les autres dont je n'ai pas vu la mort, mais dont je sens la place laissée vide, le trou resté béant depuis qu'ils ne sont plus là. Semblables à eux-mêmes, ils laissent tonner les 75 sans même retourner la tête. Ils mangent, lentement, repliés sur leurs forces profondes, toutes ces forces d'hommes mystérieusement mêlée en notre force, qui est là. Je ne la soupçonnais pas, je ne pouvais pas, maintenant je la pressens. Elle se révèle à moi avec une grande et mélancolique majesté. À travers ses épaules courbées, ses nuques fléchies, ses mâchoires qui broient tristement de misérable nourriture, j'entrevois le visage vrai de notre force, sa poignante vitalité. Rien ne les émeut plus, ni les ordres qui arrivent sans cesse, ni les ajournements, ni les incertitudes renouvelées. Nous monterons à 2h30, puis à 3h, puis à 4. Nous serons la première vague, puis seconde vague, derrière la 11e. Ils s'installent, ils s'arrangent dans leurs trous de boue, raclent leurs jambes, comme j'ai fait tout à l'heure, et continuent d'attendre. Thank you. Hirsch a été vu hors de la tranchée, son revolver à la main. Il est tombé, on l'a vu. Il a dû recevoir une balle dans la tête. Müller a été vu se débattant avec rage au milieu des boches qui l'emmenaient. Tué aussi, c'est probable. Lui qui avait dit une seule fois, à Somme-Dieu, qu'il ne l'aurait jamais vivant. Jeannot va mourir. Ceux qui l'ont vu blessé sont sûrs qu'il va mourir. Vervest, lorsqu'il s'est jugé pris, a jeté son sabre et son revolver. On l'a vu. On a tout vu. Chacun s'est battu parmi les autres. Tous les gestes que nous avons faits, quelqu'un des autres les a vus, et tous les connaissent à présent. Gerbeau s'est fait tuer exprès. Ou il est devenu fou. Nous parlons peu. Mais toutes ces paroles qu'on entend sont comme des parcelles de clarté. Une lumière grandit sur notre passé récent, éclairant tout. Nous montrons tel que nous sommes, tel que nous avons été. Nous ne sommes pas tristes, malgré ceux de nous qui sont morts. Nous les aimions bien pourtant, les trois amis de la cinquième. Jeannot, Hirsch et Müller, un seul nom pour eux trois, que nous nommions toujours ensemble. Il y a de cela dans notre vie, et aussi notre attaque prochaine, et la blessure de Panchon, que m'apprend tout à coup une parole entre les autres. Il a reçu une balle de shrapnel dans la jambe. Il a un genou fracassé. Oui, j'aurais beau me rappeler tant de choses, me dire que Panchon blessé est parti vers Ménil sans que je l'ai revu. Panchon est blessé. C'est ainsi. Hirsch, l'autre jour, a embrassé la nuque de Virginie dans l'arrière-salle du café à Belrupt. « Puisque je serai tué, » a-t-il dit à la mère Viste. Et il est tué. C'est ainsi. Et nous sommes là, en attendant l'attaque prochaine. Après notre assaut d'hier, après cette nuit, et les grenades dans l'entonnoir, et les boches qui marchaient sur nous, les poings noués à la crosse de leur Mauser, nous sommes là. Nous avons soif. Les hommes terrés dans leurs trous se plaignent seulement d'avoir très soif. Personne ne peut descendre en bas. Interdiction formelle, sous peine de conseil de guerre. Le commandement est sur ses gardes. C'est son rôle. Il y a des choses que le colonel Tillien, de l'autre côté du Mont Girmont, ne peut pas savoir ni comprendre. Prévoir, combiner, être le cerveau qui dirige, tendre son énergie vers le but à atteindre, vouloir durement, quand même, coûte que coûte. Mais être là, tous ensemble, serrés sur les places vides des morts et ne penser à rien, après avoir mangé qu'à quelques gouttes d'eau fraîche au fond du bidon épuisé. On la pète, dit Butrel. Mon commandant, je vais en bas. Va, dit le commandant. Butrel croise les courroies sur sa poitrine, étage les bidons sur son ventre, sur ses flancs et sur ses reins, puis s'en va. Ne passe pas par le boyau 6, Butrel. Mais non, mais non. Il disparaît derrière une boursouflure du sol, et nous recommençons d'attendre. Au bout d'une demi-heure, un brancardier remonte et dit « Butrel !» Eh bien, au tournant du boyau 6, une balle dans la tête. Il est par-dessus les autres. Une angoisse assombrit des visages. Des voix s'écrient « Et nos bidons ?» La 11e monte avec le capitaine Mazimbert et le lieutenant Fontanier. Il faut se serrer davantage, Les 75 tirent toujours par sèches volées de plus en plus précipitées. Il va être bientôt 3 heures. C'est l'instant fixé pour le bombardement. Et peu à peu, sans l'effarante soudaineté d'hier, le vacarme de notre artillerie emplit l'espace autour de nous. Sans qu'on s'en soit presque aperçu, cela devient aussi brutal qu'hier. Sans même qu'on en ait conscience, nos cœurs se sont remis à battre, le sang à nous gonfler les doigts, d'un flux appuyé et puissant. Nous nous levons hors de nos trous pour essayer de voir devant nous. Nos obus frappent, une zone de fumée noire et rousse ceint toute la crête de ces volutes énormes. Elle bouge et se tord sur elle-même, sans monter ni descendre, toujours pareil, noire et rousse, avec les piqûres vives des éclatements nouveaux. De loin en loin, une grosse marmite approche, embrassant l'air, puis tombe. On entend son fracas plus lourd, tandis qu'un panache mou, un instant, flotte par-dessus la zone des fumées, qui redevient très vite ce qu'elle était. Nous sommes tous debout, attentifs et curieux, sans crainte aucune. Les autres, sous l'avalanche d'acier, ne peuvent que rester terrés, se crisper sur eux-mêmes en tâchant de n'être plus rien. Quel homme oserait se lever là-dessous, armer son fusil, viser et tirer ? Nous regardons toujours. Nous attendons, avec une fièvre paisible, qu'il soit l'heure.
En avant ! Parrain, dans la sape !
Fontanier, qui doit mener l'assaut, a sorti de sa poche un canif à manche de nacre, attaché parmi des clés au bout d'une chaîne d'argent. Il a ouvert une boîte d'anchois et, proprement, délicatement, il écrase chaque poisson sur une mince tranche de boule qu'il mange, le petit doigt levé. Saint-Cyrien déjà blessé, il est revenu cet hiver avec son sabre de la mobilisation. Il s'élancera le sabre à la main. Malgré ce que nous lui avons dit, malgré le gourdin de Porchon et mon manche à balai, « C'est bien mon droit » répète-t-il. En effet, tout arrive à son heure. Le tir s'allonge à mesure que nous montons. Fontanier a fini de manger ses anchois.
« Baïonnette au canon » commande-t-il.
Et lui-même, posément, tire son sabre hors du fourreau. Nous ne regardons plus. Les obus tombent trop près. À quelques pas de nous déjà, la galerie de mine effondrée montre son auvent noir sous le chaos des madriers. Fontanier se baisse et passe. Un à un, ses hommes le suivent. Nous passerons après eux, lorsqu'ils s'élanceront pour l'assaut. Ils sont au bord de l'entonnoir, presque dedans. Par une déchirure des fumées, on aperçoit les sacs à terre, empilés, là-haut par les boches.
Regardez ! Regardez !
Qu'est-ce que cela veut dire ? Nos canons tirent encore. Fontanier brandit son sabre et s'élance, suivi par la ruée de ses hommes. On voit son bras levé, le gland de la dragonne qui sautille autour de son poignet, des soldats escaladant les pentes de l'entonnoir, dressés au faîte, disparus de l'autre côté. « En avant !» Par-dessus la galerie, hors du boyau, nous sautons à notre tour. À gauche, une ligne de tirailleurs déployée monte magnifiquement, à longues enjambées volontaires. Une mitrailleuse tire, des hommes tombent, tout de suite dépassés par la ligne obstinée qui monte, sans un à-coup, atteint la crête et la dépasse. Quelques claquements de balles encore, quelques cris, des fanions rouges qui s'agitent, le silence brusque des canons. C'est fini. « 19 février 1915. Fontanier a été blessé d'une balle à la tête, légèrement. Raveau a été blessé d'une balle de mitrailleuse au bras, bien touché. Liège, mon sergent, a reçu une balle dans la jambe. Le caporal Comte, une balle dans la jambe aussi. C'est le seul qui n'ait pu descendre, car il avait le tibia brisé. Il est resté toute la nuit au creux le plus noir de la galerie, sous les poutres, et toute la nuit, nous avons entendu sa plainte, chaque fois que les canons ont laissé reposer le silence. Nous avons retrouvé le cadavre de Gerbeau, le vieux bidon, le havresac aux taches sanglantes, celui du caporal Lucien, que nous n'avons plus revu. Personne non plus n'a revu le lieutenant Müller, mais on a retrouvé le cadavre du sous-lieutenant Hirsch, tombé à la renverse, une balle à la tête et son revolver à la main. Exactement comme on avait dit. Depuis hier soir, il n'est rien d'arrivé d'extraordinaire. Les Boches ont attaqué presque tout de suite et nous les avons repoussés. Ils ont attaqué dans la nuit et nous les avons repoussés. Ce matin, ils ont recommencé. Ils recommenceront tout à l'heure. Entre les deux buttes d'argile molle où je demeure accroupi, j'entends rager les canons revolvers de Combre, claquer quelques coups de fusil et c'est une nouvelle contre-attaque. Il y en a eu certainement plusieurs, deux ou trois, dont nous ne nous sommes pas aperçus. Plus de grenades comme hier, plus de ces feux follets inexplicables qui dansaient, verdâtres sur la boue. Rien d'extraordinaire. Une seule fois cette nuit, nous avons éprouvé la même terreur panique, le même arrêt brusque du cœur. Un obus venait d'éclater tout près et... comme déjà nous relevions la tête, détendus, un chuintement énorme nous a épouvantés. Richaume et Boiré ont bramé dans les ténèbres. Et puis nous avons ri en reconnaissant une fusée égarée qui partait de travers, à gros bouillons bruissant d'étincelles. Depuis lors, c'est toujours la même chose. Je demeure à côté à la paroi de la tranchée, une flaque d'eau jaune entre les jambes. Appuyé contre moi, à gauche, l'Ardin, du seul poids de son corps, a marqué sa place dans la boue. De l'autre côté, Boiré me pousse mollement de son épaule inerte. Après l'Ardin, c'est Biloret. Après Boiré, c'est Périnet. Après Biloret et Périnet, je ne vois plus. Manger, dormir, cela n'a même plus de sens. On a peut-être faim et soif. On a peut-être sommeil. De temps en temps, on grignote quelque chose, un vieux morceau de sucre grisâtre trouvé au fond de la musette, une bribe de chocolat suintante saupoudrée de miettes de tabac. On ne dort pas, j'en suis bien sûr. À un moment du jour, il y a longtemps, Brémond a eu le courage de monter. Il est arrivé avec deux seaux de jus, pleins, encore presque à moitié. Il s'est excusé d'en avoir renversé en route et de n'en apporter que deux. « C'est la faute de Pinard », a-t-il dit. « On en avait bouillu trois seaux, mais Pinard a reçu une chapelle dans la tempe. Il est tombé la tête dessus d'un seau. Du sang plein dedans. C'était pas buvable. » Et il ajoutait « Si Pinard avait vu cet ouvrage... » Heureusement qu'il était mort.
C'était Maurice Genevoix, Ernst Junger, Regard croisé sur la Grande Guerre, feuilleton en direct du studio 111. Aujourd'hui, ceux de 14 de Maurice Genevoix. Extrait choisi, élu par Yann Colette, accompagné par Marc Perron à l'accordéon diatonique. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son Olivier Dupré, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Claude Guerre. Ceux de 14 de Maurice Genevoix est publié aux éditions Flammarion.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.